Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Et alors, je me rappelle t'avoir posé cette question déjà, mais quand on a voilà une trentaine d'années, qu'on s'attaque à cet hôtel du Crillon qui est un monument historique et un héritage fou, comment est-ce qu'on se défait pas Comment est-ce qu'on se défait pas devant l'immense chantier quoi?
L'autre jour, je t'avais cité cette phrase de Rilke encore, que j'aime beaucoup. Alors, oui, quand j'ai des petits moments de doute, je me la redis. Mmh. Elle touche un peu à la mythologie et aux dragons. Elle dit, tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que des princesses qui attendent d'être embrassées. Toutes ces choses effrayantes et terrifiantes ne sont peut-être que des choses sans secours qui attendent que nous les secourions. Et j'ai cette phrase comme ça, comme un mantra qui est toujours dans ma tête, mais je réfléchis pas beaucoup. En fait, j'ai beaucoup de passion et un vrai sens du devoir. Beaucoup de passion pour le métier d'architecture, de la passion aussi pour la vérité qui se cache derrière un bâtiment. Donc, quand on me dit l'hôtel de Crillon, premier réflexe, c'est je veux tout savoir sur l'hôtel de Crillon. Je veux connaître l'histoire de ce bâtiment, du patrimoine, de l'architecture d'Jacques Gabriel, de la construction de la place de la Concorde. Mais je veux aussi connaître les petites anecdotes. Où est-ce que Madonna a dormi? Comment Bill Clinton l'a croisé dans le lobby? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comment le traité de la paix a été signé pour la première fois dans les années 20 au Salon des Aigles? Comment Sonia Riquel, qui a été la première femme à toucher aussi un tout petit peu à la déco, à inventer un tissu à rayures. Donc en fait, il y a tellement de choses à savoir qu'on n'a pas le temps de douter. Et cette passion, cette soif de faire ou d'apprendre le remporte toujours chez moi sur le sentiment de doute. Alors bien sûr, j'ai toujours des doutes, je me remets en question, je remets en question le dessin, je remets en question la réponse qu'on va donner à un espace, à un projet. Mais j'essaye de m'armer d'un maximum d'informations qui constituent une sorte aussi de confiance pour le projet. Et il faut une certaine dose de foi. Mmh. Il faut une certaine dose de foi dans cette quête de beauté qui nous dépasse, dans cette application du métier tous les jours qui parfois peut être drainante. Pas seulement pour moi, mais pour les équipes qui m'entourent, parce qu'il y a toujours, en effet, cette émulation créative, cette passion. Je sais que c'est pas toujours facile pour les gens qui m'entourent. Mais en fait, cette foi devient tellement absolue qu'elle te permet d'avancer. Mmh. Encore une fois, le doute est important parce qu'il te permet de te bonifier. Mais le plus important, c'est qu'il ne prenne pas le pas sur la passion et la joie créative qui est celle de faire et de réaliser.
Alors comment on t'y prend là pour refaire le Crillon? On embauche des équipes, on se structure avec d'autres cabinets d'architecture, d'intérieur, etc. Et puis il y a Karl qui arrive dans l'histoire. Comment, raconte-nous cette histoire.
Absolument. Alors pour moi c'était aussi un constat. L'hôtel de Crillon est un chef-d'œuvre du patrimoine français et qui va à la fois raconter le 18e, le 19e, la modernité du siècle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, accueillir des visiteurs. D'abord, il a accueilli des visiteurs extraordinaires. C'est ce qu'on appelait les ambassadeurs extraordinaires avant que ça devienne des ambassades, hein, après et des hôtels. Et puis, voilà, toute son histoire a été fascinante. Donc, pour moi, il a été construit aussi. Son histoire a été conçue et construite sur de très nombreuses années par plusieurs intervenants et plusieurs personnes. Donc, c'était très intéressant aussi de dire on peut être plusieurs équipes au service de cette star absolue qui est l'hôtel de Crillon. Donc, en effet, ben, j'ai réuni une équipe de décorateurs. Certains ont travaillé sur le restaurant, d'autres sur certains espaces publics, le bar, d'autres sur certaines chambres, etc. Et puis mon équipe, donc comme je le disais, sur les salons historiques, où là j'avais plongé vraiment dans l'histoire et surtout dans l'esprit Marie-Antoinette. J'ai toujours voulu, j'ai raconté autour de moi, à mes équipes, à toutes les personnes qui intervenaient sur le projet, imaginez Marie-Antoinette cryogénisée, elle se réveille aujourd'hui, elle est au 21e siècle, elle a toujours ce sens de l'audace, sa quête d'irrévérence et de beauté à sa manière, qui n'était pas du tout le cliché de l'époque, c'était toujours d'aller à contre-courant, de s'habiller en rayures, de rechercher la nature, d'avoir aussi un sens de la sophistication et de la fête. Donc l'art de la célébration autour de Marie-Antoinette, c'était déjà un état d'esprit insufflé dans le projet. Alors évidemment, je revenais aux livres, aux photos, aux photographies de Karl Lagerfeld. Et puis à chaque fois que je tournais les pages d'un livre, j'étais fascinée toujours par Karl avant de le rencontrer. Même en tant qu'étudiante, il y avait aussi cette petite chose, le pouvoir que peut donner un vêtement sur un corps. Ma mère s'est toujours habillée merveilleusement bien, même dans les périodes les plus sordides, les plus sinistres. Il y avait un couvre-feu entre, je sais pas, disons 16h et 18h. Et ben, on était tous endimanchés avec une table dressée, l'argenterie, le cristal. Et puis tout le monde devait être sur son 31, alors que c'était le chaos, c'était la folie dehors. Et on savait que quelques heures plus tard, les bombardements allaient commencer et on allait redescendre dans les abris. Mais en fait, c'était un acte de résistance par le beau. Donc j'ai toujours perçu la mode comme quelque chose de profond. C'est pas un phénomène de mode pour moi, c'est un vêtement qui peut changer ta vie et qui peut quelque part, le temps, sur un espace-temps assez limité, te transformer complètement et agir aussi comme une armure. J'ai toujours regardé les créations de Karl Lagerfeld pour Chanel. Ben, c'était évidemment la grande époque, les années 80, et la manière dont ma mère s'habillait. Et puis après, ensuite, ces décors de défilés de mode, l'architecture dont il s'inspirait également. Et un des premiers projets sur lequel je travaillais était inspiré par la collection Byzance de Karl Lagerfeld, où lui avait pris son inspiration chez John Frederick Louis, le peintre, et avait réinterprété toutes les palettes de couleurs, les chromis en tissu, en couleurs, en silhouette, et tout ça faisait un intérieur. Et en fait, j'avais déjà je regardais tout le temps ce que Karl Lagerfeld faisait, parce que je trouvais très intéressant son travelling entre la mode et l'architecture d'intérieur incarnée dans les décors de ses défilés. Et en travaillant sur l'hôtel de Crillon, je reviens aux photographies de Karl Lagerfeld, à ses photos de mode, et soudain je tombe sur une série de photos exceptionnelles qu'il avait faites pour le Vogue Japon, je pense, à l'époque. Et il avait photographié donc des personnages, des personnalités, des mannequins habillés comme au XVIIIe siècle autour d'une table selon le scénario d'un tableau qu'il avait beaucoup marqué, dont lui raconte que ce tableau a été un peu son initiation à l'art de vivre français. Ce tableau peint par Menzel et qui dépictait, donc qui peignait une scène au château de Sanssouci avec Voltaire et Rousseau autour de la table qui était en pleine conversation. Et donc, de cette scène-là, Karl Lagerfeld dit que c'était une initiation donc à son goût pour le 18e qu'il a jamais abandonné. Et moi, je voyais cette photographie de mannequin presque punk avec les coiffures, avec ses vêtements extraordinaires et cette table dressée. Tout cela dans le décor, en fait, qu'habitait Karl Lagerfeld à l'époque, l'hôtel particulier du Pozzo di Borgo, dans le 7e arrondissement, qui lui servait de domicile, où il avait recréé ses scènes. Et en regardant ces photos, c'était une évidence. L'état d'esprit de l'hôtel de Crillon était incarné dans ces photos. Alors, pendant des semaines qui sont devenues des mois, qui sont devenues un peu plus d'un an, je faisais des PowerPoint, des présentations où je disais il fallait absolument créer un pont entre Paris, capitale de la mode, un créateur dans la mode, et l'hôtel de Crillon en pleine rénovation avec cette équipe énorme d'architectes, d'ingénieurs, on creusait des sous-sols, etc. Mais il fallait quand même insuffler l'état d'esprit parisien contemporains, qui pouvait le faire? Il n'y avait que Karl Lagerfeld, regardait les photos. Et tout le monde en était convaincu, que ça soit l'opérateur, Rosewood, que ça soit le propriétaire et toutes ses équipes, ceux qui le représentent.